Macro, micro, l'émission qui fait le lien entre l'économie mondiale et votre épargne. Avec Jérôme Dédéian, président de mon partenaire patrimoine.com.
Bonjour Jérôme Dédéian.
Bonjour Fabrice.
Mais alors qu'est-ce que c'est que ce thème intergalactique que vous nous proposez pour le macro-micro de ce mois-ci ? On investit dans l'espace ?
Ben oui Fabrice, mais je vous rassure, je ne me prends ni pour Elon Musk avec SpaceX, ni pour Jeff Bezos avec Blue Origin, ni pour Richard Branson avec Virgin Galactic. Je me suis simplement dit que si l'espace prenait une place croissante dans la vie de l'humanité, et c'est que c'était une tendance macroéconomique utile à décrypter et donc bonne pour notre chronique. Et dans la thématique macro-micro, une solution d'épargne a été récemment lancée permettant de jouer cette tendance. On est donc bien dans notre cahier des charges.
D'accord, Jérôme, mais l'espace, est-ce que c'est un marché de spéculation ? C'est très risqué et puis souvent c'est contrôlé pour l'instant par les États.
Alors figurez-vous, Fabrice, que c'est ce que je croyais avant de m'intéresser au sujet. Vous savez, pour qu'un marché soit attractif, souvent on dit qu'il faut qu'il soit de bonne taille, en croissance et rentable et ouvert à l'initiative privée. Alors allons-y sur le marché de l'espace. Taille et croissance. Le marché du spatial au sens large est aujourd'hui estimé à 400 milliards de dollars par plusieurs institutions de premier plan, dont la firme d'audit et de conseil PricewaterhouseCoopers, la Space Foundation et Bryce Tech, qui est un institut spécialisé américain. Et il est projeté par ces dernières, accrochez-vous, à 2700 milliards de dollars dans 25 ans. On commence un peu à parler d'argent. Ensuite, en matière de rentabilité, bah évidemment, quand on pense conquête spatiale, militaire, on pense à de la dépense publique qui n'est pas appelée à gagner de l'argent et financée par des États ou agences d'État. Mais on oublie que l'espace, c'est surtout d'ores et déjà une composante essentielle de l'économie de tous les jours, de notre économie, et que cette tendance est croissante avec le progrès et les applications et que ça génère des revenus.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ?
Mais plein, et autant que vous voulez, pour vous démontrer que le marché de l'espace, c'est un enjeu stratégique pour l'humanité. L'espace est aujourd'hui, ça tout le monde le comprendra et le sait déjà, indispensable en termes d'information et de communication. L'essentiel de nos données transite aujourd'hui par l'espace avec une qualité, une vitesse et une accessibilité sans commune mesure avec les capacités des valises de télécommunications satellites d'il y a 20 ou 30 ans. Ils rendent accessibles les données et l'information à des populations isolées. Donc il y a aussi un space for good, pour désenclaver des gens. Ils permettent la télémédecine et l'imagerie en temps réel. Ils permettent l'Internet des objets. Internet des objets dont vous savez qu'il est indispensable, par exemple, je ne peux pas tout citer, au transport et à la logistique, qu'il est présent dans les machines médicales, dans l'agroalimentaire et demain dans le commerce de détail et de nombreux autres secteurs. Alors ça a été rendu possible par l'ouverture aux opérateurs privés du marché des lancements de satellites, et notamment des satellites à basse altitude, ceux qui sont entre 500 et 2000 km d'altitude, donc on ne parle pas d'orbite géostationnaire, c'est beaucoup plus bas, et qui ont des capacités très élevées pour une moindre dépense énergétique. Le recyclage des lanceurs, donc des fusées qui mettent les satellites sur orbite, et l'effet volume des mises sur orbite, ce qu'on appelle en constellation, c'est-à-dire plusieurs satellites d'un coup, permettent de baisser drastiquement les coûts de mise en orbite. En fait, il y a une sorte de loi de Moore, comme pour les composants électroniques, avec une baisse régulière du coût de mise en orbite des satellites et donc de l'accès à l'espace. À titre illustratif, l'année dernière, en 2020, accrochez-vous, il y a 1200 satellites qui ont été lancés, mais c'est rien ce record de 2020, car c'était un record, rien qu'Elon Musk, avec Starlink, sa société spécialisée dans les satellites, prévoit de mettre sur orbite, accrochez-vous, 42 000 satellites d'ici à 2027. Et 2027, c'est demain.
Ouais, et c'est pour notamment donner l'accès à Internet à toutes les populations sur tout le globe.
Exactement. Donc il y a vraiment des vertus et l'espace rend service. Hein. Alors, il y a d'autres éléments où il rend service, on en parlera. Alors évidemment, ces avancées, ça permet ce qu'on voit dans la presse et dans les médias, ça permet le tourisme spatial. Alors, c'est d'actualité, hein, avec l'été dernier, la compétition entre les trois tycoons qu'on a évoqués, là, Richard Branson, Jeff Bezos et Elon Musk, qui se tirent la bourre pour savoir quel est le premier qui ira dans l'espace avec son véhicule réutilisable. Mais ce tourisme spatial, c'est la vitrine d'une capacité beaucoup plus grande à projeter demain des machines et des hommes dans l'espace pour, par exemple, exploiter les matières premières accessibles sur des astéroïdes ou des planètes. On parlait des matières premières dans un opus précédent. C'est aussi la garantie de pouvoir disposer de capacités de collecte et d'analyse de données qui sont indispensables au progrès scientifique et, par exemple, à aider à la lutte contre le changement climatique et la pollution, à se déplacer vite et de façon moins impactante sur la planète, à améliorer les cultures et la gestion de l'eau, des enjeux vraiment stratégiques. C'est aussi une capacité à fabriquer dans l'espace, parce que si vous fabriquez dans l'espace, des composants en limitant leur impact écologique sur la planète, c'est bien. Et par ailleurs, vous gagnez de la distance et donc vous accroissez la capacité de l'humanité à aller de plus en plus loin en faisant reculer les frontières de l'univers.
Alors, merci Jérôme pour cette version un peu idyllique de la conquête spatiale, mais l'espace, il est souvent utilisé à des fins autrement différentes.
Oui, alors c'est vrai, il y a des sujets, évidemment, dans l'utilisation de l'espace, des sujets que tout le monde comprendra, militaires, d'armement, d'espionnage. Et puis, il y a aussi pas mal de sujets de gouvernance et de pollution. Alors, commençons par la pollution. Il va d'abord falloir que l'humanité apprenne à garder l'espace propre, voire à le nettoyer. Est-ce que vous savez combien il y a de débris dans l'espace laissés par l'humanité depuis le début de la conquête spatiale ?
Non.
130 millions.
Oui.
130 millions de débris. Alors évidemment, l'essentiel fait moins de 1 mm, mais quand même, vous savez, à la vitesse à laquelle ça tourne, ça peut faire des dégâts, ces nuages de débris. Et il y en a 34 000 de plus de 10 cm et 900 000 de plus d'un centimètre. Hein. Et il ne faudrait évidemment pas que ça limite la capacité de l'humanité à exploiter l'espace dans de bonnes conditions. Et puis, il y a aussi un problème de gouvernance. En fait, c'est exactement comme pour le droit de la mer. Vous avez des accords internationaux qui, normalement, permettent de dire que l'espace est un bien commun de l'humanité, qu'on ne peut pas se l'approprier, qu'on doit l'utiliser à des fins pacifiques, etc. Alors la vitrine de ça, c'est l'ISS. Hein. On voit Thomas Pesquet qui tourne autour de la planète et tout le monde trouve ça super. La réalité, c'est qu'évidemment, chacun tire la couverture à lui et essaye d'aller le plus vite possible pour prendre le pas sur les autres et contrôler l'espace, en prendre le contrôle dans ses propres intérêts géostratégiques avant les autres. Et donc ça va demander pas mal de régulation et de gouvernance mondiale. Il n'empêche que l'attractivité et le potentiel de ce marché du spatial est considérable et que c'est une belle thématique d'investissement.
Alors voilà pour la partie macro, on a bien compris, mais pour la micro, pour ceux qui nous écoutent, les épargnants, qu'est-ce qu'ils font pour investir ? Comment font-ils ? Est-ce qu'on peut créer un portefeuille d'actions d'entreprise directement sur son compte-titre ?
Alors c'est là où c'est génial, c'est que vous pouvez faire ça, mais enfin vous voyez bien que c'est un métier, on le dit à chaque fois, mais c'est là où c'est génial depuis qu'on a inventé le concept de cette émission, c'est qu'en fait, le marché répond toujours aux besoins des épargnants. Et bien figurez-vous qu'une société de gestion qui est très bien connue des épargnants et qu'on aime bien chez mon partenaire patrimoine, qui est la Financière de l'Échiquier, a lancé récemment un fonds qui s'appelle Échiquier Space et qui permet d'investir dans la thématique spatiale de façon organisée et mutualisée, un véhicule collectif très très liquide. Les caractéristiques de ce fonds qui a été lancé très récemment, donc il est beaucoup trop tôt pour analyser sa performance, elles sont assez séduisantes. Elles relèvent en fait, de la part de l'asset manager, d'une vraie stratégie propriétaire d'investissement dans ce marché en croissance du spatial. Portefeuille très concentré sur un nombre limité de convictions qui sont retenues après un processus de sélection drastique. Et vous savez que l'Échiquier est connu pour son filtre d'investissement socialement responsable développé depuis des dizaines d'années. Hein, ils ont été précurseurs dans la matière. Mais ils ont fait évoluer ces filtres spécifiquement sur le spatial. Alors je vais vous donner un exemple simple à comprendre, ce serait plus compliqué que ça, mais ils disent par exemple, on n'investira pas dans des sociétés qui bénéficient de la croissance de l'intervention dans le spatial si c'est des industries d'armement. Hein, ils ont un principe, no harm, on ne peut pas investir dans une société qui pourrait faire du mal. Donc c'est le principe d'exclusion. Et puis, il y a aussi une vérification systématique dans les sociétés qui sélectionnent sur cette thématique du respect des principes des Nations Unies. Et dès qu'il y a un ou deux principes qui risquent de ne pas être respectés sur la liste des principes, ils excluent la société du portefeuille. C'est un principe. Alors, l'investissement se fait autour de quatre thématiques qui sont simples à comprendre. Et vous savez qu'en matière d'épargne, la simplicité, c'est important. Il faut toujours comprendre ce dans quoi on met son argent. Première thématique, c'est les entreprises qui travaillent depuis l'espace. Alors ça, c'est facile à comprendre. C'est des entreprises qui, notamment, collectent et analysent des données, comme Spire, qui les rend accessibles par abonnement à la destination d'industriels des transports, pour la météorologie, pour l'agriculture. Je collecte des données depuis l'espace, je les mets à disposition des gens qui les utilisent sur Terre. C'est aussi des sociétés qui développent des capacités de fabrication dans l'espace, comme Archinaut, et qui, à plus long terme, préparent son exploitation minière, puisqu'on sait que une des solutions au sujet des matières premières est aussi d'aller les chercher là où elles sont, et elles sont dans l'espace. Parce que vous savez qu'elles sont sur Terre, parce que les météorites les ont apportées sur Terre en percutant la Terre. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième type d'entreprises qui sont les entreprises qui font le lien entre la Terre et l'espace. Alors, dans cette catégorie, il y a évidemment les sociétés qui développent des systèmes de lanceurs qui sont de plus en plus performants et de moins en moins coûteux, et qui démocratisent l'accès à l'espace, comme Astra ou Rocket Lab, et puis toutes les entreprises de télécommunications. Ça se comprend assez aisément. Troisième type d'entreprise sur les quatre, il y a des entreprises qui utilisent l'espace, mais depuis la Terre, donc qui bénéficient de l'économie de l'espace pour améliorer leur performance sur Terre. Il y a évidemment tout ce qui est tracteur agricole autonome qui s'adapte finement au terrain grâce aux données récoltées dans l'espace. Et donc, il y a une société qui s'appelle John Deere, qui est connue, hein, les tracteurs verts, qui est tout à fait dans cette thématique. Et puis, il y a aussi tous les fabricants et diffuseurs de récepteurs émetteurs, je vais dire GPS, mais tous les systèmes en fait, de positionnement par satellite, puisque vous savez qu'on vit sur le GPS américain, mais il y a plein d'enjeux de concurrence qui va se développer avec les constellations de satellites qui sont lancées. Et donc, une société comme Garmin, par exemple, est un des leaders des terminaux qui utilisent ces systèmes de positionnement par satellite. Et puis, il y a une dernière catégorie d'entreprises qui, elles, sont plutôt les entreprises, alors toujours de l'écosystème, c'est-à-dire qui développent des technologies transverses qui irriguent tout le secteur du spatial. On peut parler de 3D systèmes pour l'impression 3D dans l'espace, et on en aura besoin pour créer des bases, des capacités d'exploitation, de fabrication, etc. En synthèse, ce thème du spatial, il est vraiment intéressant parce que c'est une vraie tendance macroéconomique. Et justement, il y a des produits qui se développent, comme Échiquier Space, qui permettent d'investir dessus pour un épargnant avec une offre adaptée. Et donc, c'est tout à fait dans notre cahier des charges.
Eh bien, c'est super. On n'ira peut-être pas, ni vous ni moi, à passer nos vacances sur la Lune. Mais en tout cas, on peut déjà investir sur cette tendance donc de l'espace hein, et avec ce fonds Échiquier Space. Merci, Jérôme, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Macro Micro.
Macro Micro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.